Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h05 en direct sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport, Jérôme Pinault, Ludo Duchesne et un excellent Fred Weiss depuis ce matin 9h. Fred, les grandes gueules du sport.
Je me réveille doucement.
Qui vous accompagne, mais voilà, il est tôt. Tous les week-ends de l'été, vous le savez, même pendant vos vacances. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver le podcast des GG sur l'appli RMC, notre débat de la première heure où on a rendu hommage évidemment à Pauline Ferrand-Prévot. On reparlera de Pauline Ferrand-Prévot avec son papa. À 11h30, il viendra nous voir dans les GG. Dans une heure, on parlera aussi d'une autre star du sport français, Léon Marchand, qui s'est qualifié pour la finale du 400 mètres 4 nage avec le 7e temps seulement. Et puis, est-ce que le plus dur est à venir? Ça sera notre débat pour notre star des bassins. Dans 30 minutes, la punchline signée Lewis Hamilton, totalement déprimé après les qualifications hier. Il se sent inutile. Est-il temps pour lui de dire stop? C'est dans un instant. Et puis, dans 45 minutes... Les GG, c'est votre moment. Les GG contre-attaque, vous le savez, elles prennent les commandes de l'émission. Elles vont vous proposer un débat. C'est à vous de choisir sur le compte X des grandes gueules du sport. Le débat est déjà en ligne. On vous écoute pour vendre votre débat. Tiens, Fred, vas-y.
Pour être sûr que je sois réveillé,
voilà,
c'est ça. En fait, non, j'étais en train de scroller un petit peu sur mon téléphone. J'ai vu que la Fédération allemande de basket allait distribuer les mêmes prize money aux équipes masculines et féminines. Dans un moment où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire par rapport à ça, par rapport aux revenus qui sont générés par une ou l'autre équipe, je voulais poser la question au GG et discuter sur ça, sur le fait que ça soit bien ou pas bien.
Bien ou pas bien, voilà, c'est la question de Fred Weiss.
Pas bien.
Ludo.
Bien. Moi, je vous interpelle sur des transferts. Alors, je sais que ça a déjà existé dans d'autres sports, mais là, on parle de choses sérieuses, on parle de football. Des joueurs, notamment comme Gaëtan Perrin, hein, qui a été performant en Ligue 1 cette saison. Marcus Coco, le Nantais, qui va jouer donc la saison prochaine en Russie,
ouais.
Avec toutes les sanctions économiques qui existent. Est-ce que ces transactions, est-ce que cet argent qui circule, est-ce que ces joueurs qui vont jouer en Russie, est-ce morale ou pas?
On va parler dans un instant transfert, mais en Arabie Saoudite, ça sera le débat.
Ludo Duchesne, tu parles de morale, c'est inquiétant quand même.
Jérôme Pinault.
Ben moi, j'ai envie de vous parler des nouvelles ligues fermées. Alors, avec l'apparition encore cette semaine d'un projet dans le rugby, de la Rebel League, la One Cycling dans le cyclisme, la Super League dans le football, toutes ces idées qui viennent de ces investisseurs pour privatiser le sport et faire uniquement de l'oseille et rien que de l'oseille. Je voulais vous demander à tous, les GG, si, et à nos auditeurs, si vous trouvez ça encourageant, si vous trouvez ça bien ou si on est en train de complètement perdre les valeurs du sport en général.
Et ben voilà, trois très bons débats. Pour une fois, vous êtes surpassés, les GG, bravo. Vous allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Et puis, le débat préféré, on en débattra à 10h45. Mais d'abord, c'est l'heure du bras de fer des GG.
RMC, le bras de fer GG.
Bonsoir, audience. Ce soir, qui veut gagner de l'argent en mars?
On n'avait jamais entendu parler de Neom SC avant que ce club ne fasse une razzia sur les joueurs de Ligue 1 cet été.
Re-bienvenue, puisque vous êtes déjà venu à qui veut gagner de l'argent en mars.
On connaissait Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Al Ittihad, celui de Benzema, N'Golo Kanté, ou encore Al Hilal, qui a battu City lors de la dernière Coupe du Monde des clubs.
Je le rappelle que la dernière fois, vous êtes parti avec 100$.
Et moi, je pense qu'on va arriver à un point où les mecs, ils vont commencer leur carrière à 23 ans.
Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de dollars.
Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina?
Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez?
Ils vont aller faire 3, 4 ans ou 2 ans en Arabie Saoudite, remplir le compte en banque.
Nous on fait 10 millions, même 15 millions, pas moins. C'est pas rien. C'est un chiffre important, hein.
Et revenir et redémarrer à zéro en Ligue 1 à 21 ans.
C'est votre ultime bafouille.
Hier, le club de Neom a officialisé l'arrivée de Simon Boisbré, 19 ans, en provenance de Monaco. Le club promu aux ambitions immenses qui a misé sur Christophe Galtier sur le banc a également recruté cette semaine Nathan Zézé, un jeune joueur de 20 ans. Zézé, Boisbré ont accepté des contrats pharaoniques pour jouer dans le même championnat que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore N'Golo Kanté. L'Arabie Saoudite n'attire plus seulement des joueurs en fin de carrière, mais donc des jeunes qui n'ont encore rien prouvé. Alors, comprenez-vous ce choix? Dans la team, c'est compréhensible. Fred Weiss et Jérôme Pinault. Et Ludo Duchesne. Pardon.
Ah non, ouais.
Team, c'est incompréhensible. Jérôme Pinault, bien sûr. Avant de lancer le débat, les amis, on va accueillir Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Bonjour.
Parce que tu suis Maxime. Monaco notamment hein, pour RMC.
C'est plus malheureux de tous lui en fait.
Oui, non, voilà. Mais quand il part en vacances, il reste sur son lieu de travail.
Trop dur,
c'est ça qui est terrible pour lui. C'est, il part en vacances, il reste, voilà, il reste là où il est.
Ouais, mais il y a pire. Hein. Moi, quand je pars pas en vacances, je suis à Limoges.
Un peu comme RMC.
En tout cas, Maxime, explique-nous surtout qui est ce Simon Bouabré, donc qui a été hier officialisé nouveau joueur de Neom, qui a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite à seulement 19 ans.
Eh bien, c'était tout simplement la prochaine pépite qui devait éclore du côté de Monaco. Un milieu offensif qui a eu 19 ans à peine au mois de juin, considéré en France comme l'un des plus gros potentiels de sa génération, capable de jouer entre les lignes, éliminer dans les petits espaces, frapper de loin, être passeur décisif. Il a notamment remporté la Coupe Gambardella avec Monaco en 2023. Il a connu toutes les catégories de sélection jeune en bleu, finaliste notamment de l'Euro U17. Il avait fait partie de l'équipe type du tournoi, finaliste également de la Coupe du Monde U17, de l'Euro U19. Le mois dernier, il a remporté le tournoi Maurice Revello, c'est l'ancien tournoi de Toulon avec l'équipe de France. En pro, il a grappillé quelques minutes par-ci par-là, la saison passée notamment, 161 au total. Mais face à une forte concurrence en principauté et un souhait d'avoir plus de temps de jeu dans l'immédiat, eh bien, il a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat à Monaco. Marseille, le Paris FC ou encore West Ham étaient intéressés par ses services, mais il a choisi Neom, un peu comme avant lui, le défenseur nantais Nathan Zézé, qui n'avait que lui que 20 ans.
Effectivement, donc c'était pas n'importe qui Bouabré, c'est-à-dire que c'est vraiment un espoir. Hein. Il part pas parce que Monaco veut plus de lui. Hein. Il était convoité aussi par l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup Maxime, et à bientôt sur RMC, puisque toi tu vas suivre aussi Nice, et c'est pour ça que tu es déjà sur le pont. Nice qui jouera contre Benfica, ça sera mercredi à 21h, et à ne pas rater sur RMC, parce que pour le voir, ben faudra prendre un truc payant là, ça sera difficile. Donc vaut mieux écouter à la radio, Maxime. Merci beaucoup, Maxime. Gratuit. Voilà, ça sera gratuit. Comprenez-vous ce choix donc de ces jeunes joueurs, et notamment Bouabré, de rejoindre l'Arabie Saoudite, 32-16 pour nous rejoindre. Je fais le point sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, c'est assez serré, mais la team incompréhensible représentée par Jérôme Pinault est devant, 59%. La team compréhensible, Ludo Duchesne, Fred Weiss, 41%. Donc c'est à vous d'essayer de convaincre ceux qui nous écoutent, Fred et Ludo. Fred,
oui.
Pourquoi tu trouves ça compréhensible?
Parce que j'en ai marre de l'hypocrisie. J'en ai marre. À un moment, quand on te propose des salaires aussi mirobolants, on sait qu'une carrière de sportif est très courte, qu'il faut la rentabiliser au maximum. Alors oui, on est sur une échelle de valeur qui est différente, mais ça c'est sociétal. On a pris en référence dans cette société actuelle l'argent plus que le panache, la gloire, etc. C'est comme ça, c'est sociétal. Donc est-ce qu'on peut le regretter? Oui. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'un joueur jeune qui sait que sa carrière va durer peu de temps a envie de mettre de l'argent de côté directement quand on est attiré par ce genre de chaîne? En plus, on l'a expliqué hein, sur Monaco, il y avait de la concurrence qui gênait, il voulait plus de responsabilités, et t'as la possibilité d'avoir beaucoup plus d'argent. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire non, c'est inadmissible, ou on ne comprend pas qu'on fasse non. Ça. C'est complètement logique, c'est la suite normale. Il y a de plus en plus d'argent dans le foot, il y en a de plus en plus de concurrence, on peut se baisser, la carrière dure un certain temps, mettre tout le monde à l'abri, et surtout, partir aussi jeune, ça veut dire avoir la possibilité de revenir à un âge raisonnable. C'est-à-dire qu'en gros, ça se passe mal, tu reviens en France, tu reprends ta carrière à zéro peut-être, mais avec ce vécu à l'étranger. Moi, je ne vois pas ce que tu as à perdre, et je comprends tout à fait, même si ce n'est pas dans mes échelles de valeur.
Alors, non, je vais apporter, puisque
oui, parce que
on est d'accord pour une fois avec Fred, je lui ai laissé le volet argent. Moi, je vais apporter le volet sportif. Depuis 2 ans, ce championnat s'enrichit de joueurs de qualité et de jeunes. Donc, puisque même, on se rappelle qu'il y a 2 ans, Moussa Diaby aussi, l'international français, a signé. Je veux aussi dire que Théo Hernandez, titulaire en équipe de France, vient de signer. Il a 27 ans, il n'a pas 37 ans. Donc, c'est un jeune joueur. Là, ce sont de très jeunes joueurs qui signent.
Oui, c'est ça qui choque plus, parce qu'à la limite, à 27 ans, t'as déjà fait ta carrière.
Oui, mais
Bouabré, il a 5 bouts de match en Ligue 1. Hein, donc,
voilà, donc il ne jouait pas à Monaco. Donc oui. Lui, il choisit d'aller jouer
dans Hernandez, il a beau avoir 27 ans, avec les nombreuses blessures qu'il a. Ludo, tu vas pas me dire qu'il n'est pas en fin de carrière. C'est non. complètement différent.
Ah non, il n'est pas en fin de carrière. Non, non.
Non, mais.
Il est au creux de la vague. Ça ne veut pas dire en fin de carrière. Il faut bien choisir un mot. Il est au creux de la vague parce que c'est difficile. Il a eu des blessures.
Et il vient du Milan AC. Non, non, mais. Et aujourd'hui, il y a un très bon niveau du football saoudien. En tout cas, un très bon niveau moyen qui augmente. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde des clubs avec Al Hilal, qui est quand même entraîné par Simone Inzaghi, qui a été en quart de finale et qui a montré de très, très belles choses. Avec aussi des joueurs saoudiens. J'en profite pour saluer le travail du staff français de la sélection d'Arabie Saoudite avec Hervé Renard et François Rodriguez. Ça travaille bien du côté de l'Arabie Saoudite. On voit des clubs qui se développent. Alors, on va pas se mentir, évidemment qu'il y a beaucoup d'argent, Fred l'a dit, mais il y a aussi un vrai fond de football. On travaille au niveau du foot et des jeunes joueurs qui vont là-bas et qui vont sans doute revenir. Je prends un dernier exemple, Jérôme, c'est Gabri Vega, donc qui est un jeune joueur qui est parti en Arabie Saoudite. Deux ans après, il revient, il signe à Porto. C'est aussi ça l'avantage, c'est que tu vas dans un pays où tu vas jouer. Boabré, il va jouer, il ne jouait pas à Monaco, et tu peux revenir et jouer après en Europe. Donc ça devient un championnat comme les autres, et ça devient petit à petit un championnat performant.
Jérôme.
Non, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où là les deux joueurs cités, moi je te prends l'exemple évidemment, Ludo, tu le sais, de Nathan Zézé. Nathan est né ici à La Varenne, il a grandi au FC Nantes, il a 22 ans, il est espoir international, il a 20 ans pardon, ouais. Il est espoir international et il signe dans un club qui sort d'être champion de D2 à d'Arabie Saoudite. Tu aimes le foot, mec, ou tu aimes pas le foot? C'est ça que j'ai envie de poser aux joueurs. Quand t'as 20 ans, t'as envie de jouer dans un stade plein, tu rêves du Barça, tu rêves du Milan AC, tu rêves de la Juventus. Évidemment qu'il y a l'Oselle, mais l'Oselle, il y en aura quand même.
Je pense qu'avant, tu rêvais plus de ça. Je pense que c'est un peu différent. Et en plus, tu peux être un pionnier en plus.
Il était potentiellement transférable à Villarreal cet été. Oui. Il n'a pas voulu du projet Villarreal. Mais il y a quand même un gouffre
entre
Neom FC et Villarreal. C'est un joueur qui peut jouer dans
les grands clubs. Je ne suis pas sûr, Jérôme.
Et l'Oseille, les garçons, l'Oseille, ils ne sont pas smicards quand ils restent en Ligue 1.
Mais Jérôme,
je ne suis même pas sûr de ce que dit Jérôme. Il va jouer avec qui, Nathan Zézé? Il va être entraîné par Christophe Galtier, pardon. Hein. C'est un super entraîneur. Il va jouer avec Alexandre Lacazette. Il va jouer avec Saïd Benrahma, il va jouer avec Marcin Bulka. Non, mais Marcin Bulka, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. C'est des joueurs extrêmement performants.
Il aurait joué contre le Real.
Quand t'as 20 ans,
est-ce qu'il y a des joueurs de qualité? Il faut dire la vérité aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est le thème de notre débat. Il y a des joueurs.
C'est pas un peu hypocrite parce qu'il part et c'est pas pour le projet sportif, c'est ce que t'es en train de nous dire.
Non, mais moi, je pars
pour le projet sportif. Tu es sur la lignée de Cristiano Ronaldo qui dit que le championnat d'Arabie Saoudite.
Je ne fais pas ce genre de comparaison, mais moi je suis sur la lignée de Fred sur un point. Je n'ai pas de souci avec l'argent. Je dis après que le niveau sportif moyen a sérieusement augmenté. On ne parle pas du Qatar hein, où le niveau était très faible. Là, ça devient un bon championnat.
Si,
et parce que
il y a beaucoup d'argent, mais pourquoi entourés.
Pas C'est ça.
Pourquoi ces garçons-là sont quand même entourés. Il n'y a personne dans son entourage et dans ses agents qui pensent, à part acheter les grosses bagnoles, investir dans des trucs et gagner de l'oseille. Lui
non, pensez à ça.
On va faire un plan de
mais
carrière.
Mais non, c'est penser à sa fin de carrière.
Mais
Jérôme, il est tellement jeune qu'il attend que ça se passe mal là-bas et de revenir encore.
Il a 20 ans,
c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que si tu veux tenter le coup, vaut mieux le tenter à 20 ans, à 19 ans, plutôt que le tenter à 25, 26, où justement tu n'auras pas de retour possible, ou en tout cas beaucoup plus difficile. Là, tu te dis, c'est des espoirs.
Parce que tu penses que Nathan Zézé, si par un OMFC, que ça se passe pas bien, et que finalement, il veut revenir dans deux ans, Nathan Zézé, on va pas l'oublier en France.
Ben non, moi je suis persuadé que non. Bien sûr que non, ça restera un espoir.
Donc, il va se faire un nom en Arabie Saoudite dans un club et dans une ligue qui sera même plus diffusée en France.
Jérôme, tu m'as demandé si on allait l'oublier. Tu m'as pas demandé s'il allait se faire un nom là-bas. Pourquoi ça se passerait mal, effectivement? Et ensuite, comment tu peux présupposer.
Ça se passe bien, Ali. Il n'est pas visible, ce championnat.
Mais oui, mais on le connaît. Visible. On sait qui c'est. On connaît son potentiel. Donc, s'il part là-bas, que ça se passe bien. Mais il n'y a pas de raison que s'il revenait en Europe, on n'ait pas toujours le même avis sur lui, en fait. Il restera un très jeune joueur.
Après, c'est pas le même rythme non plus. Hein.
Oui, mais les matchs
sont pas au même rythme. Ceux qui reviennent,
il restera un très jeune joueur en fait.
De s'adapter pour rejouer dans le plus haut niveau.
Et il y a le côté aussi moral. Je sais pas, t'as 20 ans, tu rêves de grands stades, de football en Europe, des grands noms, des grandes compétitions.
La moralité, c'est pas un argument, la moralité. Parce que chacun place sa moralité où il souhaite la placer.
Moi, ça me pose un problème, donc on me demande mon avis. Moi, ça
c'est. Oui, mais que toi, tu veuilles pas le faire. Peut-être qu'on est de cette génération où on l'aurait pas fait. Effectivement, moi, je l'aurais pas fait non plus. Sauf que je comprends. comprends ce qui se passe actuellement, je comprends la pensée que peuvent avoir les jeunes, et je comprends que l'image de dire je mets ma famille à l'abri en deux ans, et ben c'est cool.
Moi, sur ce terrain-là, je veux bien rejoindre Jérôme. Sauf que il faut aussi à un moment donné être au fait de ce qui se passe. On vient de vivre une Coupe du Monde au Qatar. Demain, il y a la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Moi, je veux bien qu'on nous raconte tout ça. Sauf qu'à un moment donné, la réalité, c'est que oui, on joue au Qatar. Oui, on va jouer en Arabie Saoudite. Et qu'aujourd'hui, et moi, je parlais du sportif, attention. Eh bien, le niveau devient moyennement très bon.
Demain, par exemple, les joueurs européens vont rêver de rejoindre, pourquoi pas, Al Hilal, les clubs saoudiens.
On a commenté la Coupe du Monde des clubs sur RMC. Ouais. On a commenté tous les matchs de cette Coupe du Monde des clubs. J'ai commenté plusieurs fois Al Hilal, qui a, par exemple, l'un des plus beaux matchs, c'était contre Manchester City, qui a battu Manchester City 4-3, qui a été en quart de finale.
On a vu
un très bon match. On a vu un très bon club qui est entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui est Simon Inzaghi. C'est pour ça que quand on me dit que Nathan Zézé ne va pas apprendre, je dis pardon. Alors, il va être entouré que de grands joueurs. Bah oui, il va apprendre.
Pour parler argent, parce qu'il y a pas mal peut-être de gens qui se posent la question de combien va gagner par exemple Zézé. On n'a pas les chiffres pour Boisbré, mais Zézé il touchera près de 4 millions par an. Et avec ce salaire, il ferait partie du top 10 des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Plus de 300 000 par mois. Ouais, à Nantes, il touchait 50 000 par mois. Villarreal, qui lui proposait vraiment un contrat à 150 000. Donc il double, évidemment.
Je comprends, ça doit être tellement dur d'aller là-bas et prendre le double, d'être encore jeune.
C'est pas suffisant par mois.
Ça, c'est une échelle de valeur que toi, tu détermines. Ça, c'est hyper facile de faire ça. Je peux pas supporter cet argument, François. C'est pas possible. C'est bien sûr que c'est énormément d'argent, mais si tu peux gagner le double.
150, c'est déjà pas mal.
T'es en train de me dire si demain, ici, à RMC, on te dit on te donne le double, tu dis ah bah non, les gars, c'est déjà très bien ce que je gagne. Mais non, évidemment que non. C'est hypocrite.
Moi, je fais ça pour la passion.
Oui, bah écoute, continue. Et d'ailleurs, je viens d'avoir la direction qui dit que tu ne seras pas payé aujourd'hui. Parce que c'est la passion qui prime.
C'est pas grave. Je suis tellement heureux d'être avec toi ce matin. Oui, Jérôme.
Il y a quand même un argument qui me choque, c'est que ces garçons-là sont tous très entourés. On le voit, ils ont tous 10, 15 conseillers. Ah, oui. À qui tout ça profite? C'est-à-dire, c'est pas Nathan Zézé à 20 ans qui dit moi je veux jouer en Arabie. C'est pas possible.
Les clubs sont bien contents. Nantes est bien content. Monaco est bien content de pouvoir vendre le joueur.
C'est le plus gros transfert de l'histoire de Nantes. 20 millions d'euros.
Les clubs de Ligue 1 se frottent les mains.
En plus, sur un projet dans ce club qui va porter l'an prochain, faute de moyens, sur la formation, et on va s'appuyer sur les jeunes joueurs, on a bien fait de laisser partir l'un des tout meilleurs. C'est un très bon projet.
En gros, tout le monde est content. Les clubs sont contents, les agents sont contents, les joueurs sont contents.
Il y a que Jérôme Pinault.
Jérôme Pinault n'est pas content.
Moi, je suis pas content de voir Nathan Zézé partir, qui est l'un des très bons joueurs de mon club, qui va pouvoir tenir la baraque dans mon club, partir.
Mais il serait parti, Jérôme.
Néo MFC, dont personne ne
connaît. T'as raison, mais il serait parti de toute façon.
C'est un vrai problème.
Ouais. Malheureusement, il serait parti.
Mais partir au Néo MFC. Alors, t'as la fierté de voir partir un. Alors, il y en a qui reviennent dans des clubs à côté, qui ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Mais lui, partir dans un club.
C'est un vrai lenté, Jérôme. Il parle de Rongier et de Merlin qui ont signé. Je traduis.
On aurait aimé qu'il soit là pour le débat qu'on a fait la semaine dernière.
Moi, j'ai une fierté totale quand je vois un jeune Nantais qui part et qui joue dans un grand club.
Mais t'as raison, allez,
là, ça m'emmerde. Si c'est juste pour l'oseille,
Tu sais que c'est grâce. Non, juste un instant. Tu sais qu'ils ont hésité à cause de ça, Jérôme. Quand ils ont entendu que toi, tu serais triste du fait qu'ils partent, vraiment, ils ont vraiment hésité.
Alexandre.
Non, mais ça, tu peux pas lui enlever à Jérôme, c'est un passionné.
Il est avec nous au 32-16. Salut, Alexandre.
Bonjour messieurs, je suis ravi de pouvoir enfin parler. Bonjour. J'attendais mon tour depuis au moins 5 minutes.
J'ai coupé Fred et Jérôme pour te donner la parole. On t'écoute, Alexandre, sur ce débat.
Merci beaucoup. Et en parlant de Jérôme, moi je suis totalement d'accord avec lui. Je trouve ça incompréhensible parce que le niveau, il a pas augmenté tant que ça. Et Xavi, il a fait ses premières armes d'entraîneur en Arabie Saoudite. Il est venu au Barça, ça n'a pas suffi malgré tout. Premièrement, et deuxièmement, on parle de l'argent, on parle du niveau, mais vous avez oublié un troisième critère qui est la ferveur. Et il n'y a pas énormément de ferveur dans ces pays-là, parce qu'à part sortir le carnet de chèques et mettre les feux des projecteurs sous eux, ils ne sont pas capables de faire grand-chose au niveau développement du football.
Ça, je suis désolé,
c'est encore très rudimentaire. C'est encore très rudimentaire. Et
ils jouent avec un ballon quand même.
Ils jouent avec un ballon, d'accord, mais s'ils avaient signé en Amérique du Sud, si l'Amérique du Sud avait pu s'aligner au niveau salarial, ça aurait été moins choquant, je trouve.
Après, c'est une vision très européenne, encore morale, une fois, là, parce que.
C'est une vision très européenne, je vais parler d'Amérique du Sud, et je viens de dire que l'Amérique du Sud, c'est
non,
mieux en termes
en
de
disant,
ferveur.
Mais oui, bien sûr. Disant, voilà, que le foot, c'est en Amérique du Sud et en Europe. Et tout ce que veut faire la FIFA, c'est prouver qu'il y a du foot ailleurs.
On a vu que non, pendant la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, désolé.
Alors après, c'est peut-être en développement. Là, il a raison, Alexandre. C'est vrai que ça va peut-être prendre du temps d'avoir de la ferveur dans les stades, d'avoir des stades. On n'a pas des stades comme en Espagne, en Angleterre.
Et être un pionnier, c'est pas cool aussi? Être un pionnier, se dire je vais dans une ligue qui continue à se développer, je vais me développer avec elle.
Je pense qu'ils ont ça dans la tête.
Évidemment. Sûr, le chèque, pas du tout. Le chèque, pas du tout. Oui, François Sachs, c'est vraiment juste pour.
Ils ont ces valeurs-là. Ils ont ces valeurs-là.
Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose.
Ça de la Chine à la fin des années 2010, ils n'ont pas tellement progressé.
Parce qu'ils ont arrêté leurs investissements sur le foot. Ils en ont mis beaucoup et ils ont à un moment donné stoppé. Les Chinois notamment. Ça n'a pas l'air d'être le chemin que prend l'Arabie Saoudite.
Pour Alexandre, je pense que c'est différent aussi. Le football se développe vraiment en Arabie Saoudite. Les stades également sont déjà pratiquement tous sur pied et de bonne qualité. Il y a du public qui vient. Alors évidemment, c'est pas Alexandre pensait peut-être à l'Argentine. C'est pas l'Argentine, c'est pas Buenos Aires. Mais
parce qu'il faut construire une histoire.
Mais ils sont en train de la construire. Et pourquoi ils la construisent aussi? Il faut dire la vérité. On peut parler d'argent, on sera tous d'accord autour de cette table. Parce qu'en 2034, il y a la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. Donc ils ont besoin vraiment d'avoir un championnat qualitatif. Et après, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont cette vision, absolument, ils ont cette vision d'aller jusqu'en 2034 et de construire. Et ils ont déjà tiré, quand tu attires Ronaldo, Sadio Mané, des joueurs de N'Golo Kanté, etc., Benzema, c'est quand même. Et Neymar qui est venu, qui a fait un passage éclair parce qu'il s'est blessé. Mais voilà, mais sinon, c'est quand même des très, très grands.
Merci beaucoup, Alexandre, d'être passé. Tu reviens quand tu veux, évidemment, sur RMC. Merci beaucoup. Et ce débat, on l'aura sans doute encore dans les grandes gueules du sport et sur RMC. On revient dans un instant, les amis, parce qu'on veut vous faire entendre Lewis Hamilton. C'est vraiment la punchline d'hier, parce que le pilote Ferrari se sent totalement inutile et il le dit. Doit-il dire stop? 32-16 pour rejoindre les GG. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h31, vous écoutez les grandes gueules du sport, très animé ce matin depuis 9h. Fred Weiss, Ludo Duchesne, Jérôme Pinault, on est absolument d'accord sur rien, mais c'est pour ça qu'on vous aime et c'est pour ça que vous êtes là. Dans un instant, les GG vont prendre les commandes de l'émission, ça s'appelle les GG contre-attaque, vous le savez. Et si on fait un petit point sur, pour l'instant, qui domine, je vais vous dire ça tout de suite, c'est Jérôme Pinault pour l'instant, largement en tête, 51%. Il veut nous parler notamment des ligues fermées, des ligues privées. Est-ce que le sport est en danger face à la montée des investisseurs? Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Derrière, il y a ton débat autour des joueurs qui partent pour la Russie, pour des clubs russes. Est-ce que c'est immoral ou pas? 31%. Et puis, bon dernier, comme hier, Fred Weiss, qui est sur sa lancée, qui a tenté pour l'instant, de parler de un petit peu de basket, d'égalité homme-femme.
L'égalité homme-femme n'intéresse personne. Je suis un peu triste, mais
C'est pas fini. Vous pouvez encore voter, n'hésitez pas, contre X des grandes gueules du sport. Mais d'abord, la punchline GG signée Lewis Hamilton après des qualifications qu'il a terminées à la 12e place hier. Écoutez bien.
RMC, la punchline GG.
Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème. Vous le voyez bien avec la pole de Charles Leclerc. Ferrari devrait probablement changer de pilote.
Depuis son arrivée chez Ferrari, l'ancien champion du monde enchaîne les déconvenues. Il occupe la 6e place du classement, bien loin de ses ambitions. Il n'a plus goûté aux joies d'un podium depuis novembre 2024. Leclerc lui a déjà fait 5 podiums cette saison. Alors, est-ce qu'ils doivent dire stop, Lewis Hamilton? Oui ou non? Ludo Duchesne.
Oui.
Fred Weiss.
Oui.
Jérôme Pinault.
Mon avis a beaucoup changé en lisant tout ce qui s'est dit. Je dirais non. Tu vois, finalement,
okay.
Je vais dire non.
Écoute, peut-être que tu vas avoir l'apport de quelqu'un qui connaît bien Lewis Hamilton et la F1. Jean-Luc Roy est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut François.
Bonjour Jean-Luc.
Salut Ludo et salut Jérôme.
Alors, tu vas avoir un rôle important difficile d'être l'arbitre de ce débat. Juste quand même, Jean-Luc, avec toi. Il s'est vraiment planté hier en qualification, Hamilton, la 12e, c'est catastrophique pour lui?
Bah oui, c'est évident. Surtout que ce qui met ça en exergue, si tu veux, c'est la pole surprise, la pole incroyable signée par Charles. Personne s'y attendait, pas moi non plus. Je l'avais dit dans les paris. Je pensais qu'il allait se glisser entre les deux McLaren au prix d'un exploit personnel ahurissant, mais il a fait mieux. Il décroche une pole, la 27e de sa carrière. Par parenthèse, vous me pardonnerez de faire le petit clin d'œil, mais 27, c'était évidemment, vous le savez, le numéro de Gilles Villeneuve et celui de Patrick Tambay en course, le 27 sur la Ferrari. C'est magique, ça le met au 11e rang dans l'histoire de la Formule 1 et il est à deux pôles maintenant du grand Juan Manuel Fangio. Voilà, bon, pour la pôle, donc si tu veux, c'est ça qui met en lumière évidemment l'incapacité pour le moment de Lewis Hamilton. Alors, je me suis plongé dans mes archives, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais écoutez bien, on va déjà parler des arrivées de champion du monde en titre, déjà plusieurs fois titré, au sein de la Scuderia Ferrari. En 96, Schumacher. J'ai pris la moitié de la saison. On l'a un peu dépassé, mais donc après 8 grands prix, Schumacher totalisait 26 points, Jean Alesi 21. Quand Alonso est arrivé en 2010 chez Ferrari, après ses deux titres de champion du monde 2005-2006, après 9 grands prix à l'époque, 98 points pour Alonso, 67 pour Massa. Et le plus récent, bien sûr, quand Vettel est arrivé en 2015 chez Ferrari, il était 4 fois champion du monde. Après 9 grands prix, 135 points pour Vettel, 76 pour Raikkonen, qui n'était pas n'importe qui a quand même été champion du monde, vous le savez, avec Ferrari également, en 2008. Alors après, j'ai regardé ses saisons. Eh bien, c'est de loin sa plus mauvaise saison. Lorsqu'il a débarqué en Formule 1 chez McLaren, il était tout jeune. Après 8 grands prix, il affrontait rien moins que Fernando Alonso, qui était justement titré à peine. Eh bien, après 8 grands prix, Hamilton 64 points, Alonso 52. Sur l'année, il a totalisé 12 podiums. Alors, j'ai quasiment toutes ces années. Je vais pas vous accéder tout ça, mais là, évidemment, pour cette saison 2025, la moitié de la saison, 5 podiums, on vient de le dire pour Charles, une pole maintenant, alors ça c'est après, et 0 pole, 0 victoire, 0 podium pour Hamilton. Ouais. Alors ça a commencé à mal se passer depuis 2022, pour être clair. Là, si tu veux, par rapport à Russell, qui était son équipier chez Mercedes, là aussi, 240 points à la fin de la saison pour Hamilton, 275 pour Russell. Ouais. Alors, en 2023, il a un peu redressé la tête. 234 points pour Hamilton, 175 seulement pour Russell. Donc là, il a fait mieux. Et en 2024, c'est reparti dans le mauvais sens. 223 points seulement pour Hamilton, 245 pour Russell. Voilà. Donc ouais. C'est clairement, il est sur le déclin. Il faut le dire. Alors, 40 ans,
justement,
c'est normal.
Effectivement, Jean-Luc, et c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il doit dire stop ? On rappelle qu'il a quand même un contrat jusqu'en 2026, donc il a encore une saison à vivre sous les couleurs Ferrari et Lewis Hamilton. Ça m'étonne. Alors, Jérôme, tu me dis que tu as beaucoup hésité. Pourquoi déjà tu as beaucoup hésité et finalement tu dis qu'il ne doit pas arrêter ?
Parce que j'ai regardé un petit peu et surtout parce que Hamilton, ça reste Hamilton et que, effectivement, comme le dit Jean-Luc, il connaît bien mieux que moi la F1, il est plus celui qu'il a été. Maintenant, il a pas été, il a forcé personne à avoir ce volant. Il a été recruté. Est-ce que il ne sert qu'à piloter en Grand Prix ou est-ce qu'il apporte beaucoup plus? J'imagine, Jean-Luc, qu'il apporte aussi beaucoup dans l'écurie, bien même sûr. Si cette déclaration, il semble qu'il soit sportivement en deçà, mais je pense qu'il apporte autre chose et beaucoup de choses à la Scuderia. Et peut-être que finalement, le fait que Hamilton soit là, alors évidemment Charles Leclerc est un super pilote et très très talentueux, mais peut-être que l'apport d'Hamilton dans cette Scuderia et l'apport d'Hamilton auprès de Charles Leclerc apporte aussi cette expérience-là pour le très très haut. Et je me dis que ce serait dommage de ne pas profiter d'une dernière année de saison s'il peut apporter des choses. Et dans le management, on doit s'adapter. C'est à Monsieur Vasseur de prendre les décisions, de dire voilà comment on peut fonctionner, comment peut-on tirer profit de la présence d'un énorme champion, Lewis Hamilton, qui peut évidemment peut-être plus performer sur la piste comme il le faisait par le passé, mais tellement apporté à la Scuderia pour
peut-être
ensuite
pas devant
passer
un volant,
à
là.
Autre chose.
Ouais, mais c'est
un énorme champion.
Il en est là quand même.
Qui a dit qu'il était inutile.
C'est
on
peut-être
rappelle,
plus compliqué. C'est peut-être plus compliqué quand même quand on s'appelle Lewis Hamilton. On parle de Frédéric Vasseur, mais de sortir Hamilton. du baquet comme ça, ça doit être à mon avis quelque chose, ça doit être un choix assez impossible à faire. Moi je pense qu'il répond lui-même à la question, Hamilton, quand il parle de cette manière. Bah, t'as envie de lui dire, bah oui, descends de la voiture et puis prends ta retraite. T'as été 7 fois champion du monde, t'as une carrière fantastique. Peut-être va profiter d'autre chose ou fais autre chose maintenant. En plus, je pense que c'est un sport où que tu peux pas faire à moitié ou en dilettante ou avec des regrets ou avec quand tu vas 300 km/h sur la route. Je pense qu'il faut quand même être maître totalement de ce que tu veux et avoir envie et ceci. Là, on sent que il est limite désespéré, limite.
Ah oui, mais sa déclaration, elle est folle.
Sa déclaration.
Au fond du trou, voilà. Donc.
Ouais. Moi, François, je vais t'expliquer un truc. On a tous des idoles dans la Formule 1.
Ouais.
Et moi, mon idole, c'est Jean-Luc Roy. Et il le sait déjà. Et une de ses phrases qui m'avait choqué quand il a parlé d'Hamilton, c'est quand il dit ça devient gênant. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de se salir comme ça, Hamilton. Il n'a pas le droit. Cet énorme champion, ce champion magnifique qui a rêvé tellement de personnes, il n'a pas le droit d'être en souffrance comme ça. Il n'a pas le droit de nous montrer qu'il est en souffrance comme ça sans arrêter. Parce qu'à un moment, ça serait contradictoire avec ce qu'il est en train de dire. En gros, il est en train d'expliquer, et Jean-Luc l'a très bien expliqué.
C'est un appel à l'aide, là, ce qu'il fait.
En gros, c'est peut-être, pour moi, c'est, allez, on se met autour de la table, on trouve une solution, là, pour que je sorte le plus grandi possible, quand même, de cette expérience.
Après, quand on a un champion de très, très haut niveau, comme il l'est.
Mais à un moment, il y a une fin à tout. Et c'est normal.
Finir comme ça.
Mais oui, mais il vaut mieux finir maintenant plutôt que se dire que l'année prochaine sera pire, peut-être.
Pourquoi pas, ça peut être mieux.
Mais ou pas. On sent qu'il n'est pas du tout dans le coup. On sent qu'il est en souffrance. Il ne le mérite pas pour lui. Et on ne le mérite pas, nous, suiveurs de la Formule 1. À un moment, il faut faire des choix. On est un grand champion. On a un historique.
Ils ont su amender, dire stop, Fred et Jérôme.
Personne ne voulait qu'ils arrêtent leur carrière.
Après, c'est différent. Certains ont des blessures. Moi, j'avais un gros problème de genou, donc j'ai arrêté. C'est différent sur Formule 1. Mais à un moment, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Et au contraire, se dire je n'y arrive plus, c'est plus beau comme sortie que terminer sur des performances incroyables. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Luc par rapport à ça. Alors, mais
Jérôme, mais après Jean-Luc.
Parce que Jean-Luc, c'est quand même, je vous l'ai dit, c'est mon idole, hein, Formule 1.
Oui. Il a entendu.
C'est aussi ma référence. J'ai presque une question à poser à Jean-Luc. Si un mec comme Hamilton a envie de dire ce soir, j'arrête, terminé, je basta. Il n'a pas besoin de faire appel à qui que ce soit et de se mettre autour d'une table. Ou alors je me trompe, mais si l'immense champion qu'il est dit ce soir, à la fin du Grand Prix de Hongrie, je suis plus à ma place, j'arrête, trouvez-moi un successeur.
Ouais, mais il faut de la communication, faut le faire main dans la main avec son équipe, j'imagine.
Ils se mettent d'accord sur la com.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est dans ce sens-là que je disais. Mais bien sûr que c'est lui qui décide de quand il s'arrête, évidemment, j'imagine.
La question était pour Jean-Luc Roy.
Oui, mais à un moment, je vous dis, je suis tellement fan de Jean-Luc Roy, je peux répondre pour lui parfois.
Jean-Luc.
Bon, écoutez, la déconvenue, déjà, la gêne que tu as évoquée, Fred, est à la mesure du tam-tam médiatique. Je ne sais même pas si on peut parler de ça, mais on avait parlé de tremblement. C'était le transfert du siècle, en tout cas du 21e siècle. On n'avait jamais vu un truc pareil. Et il faut reconnaître que ça accouche d'une souris, quoi. Le problème, il est là. En termes de résultats, il n'y est pas. Alors, comme vous l'avez tous souligné, bien sûr qu'il a apporté autre chose médiatiquement. Mais là, ça devient gênant. D'ailleurs, la présence de John Elkann, qui, pour moi, c'est lui qui l'a fait venir. Hein. Je ne vais pas faire offense à Fred Vasseur. Je l'ai dit depuis le début. Fred n'était pas contre, évidemment, si on lui propose de faire venir. Mais vu les budgets en jeu, parce qu'on parle quand même, là aussi, de 80 millions de dollars de contrat, plus le reste. Donc, c'est absolument énorme. Donc, quand je parlais d'accident industriel, c'est que là, il ne peut pas claquer la porte du jour au lendemain.
Ah oui.
Maintenant, il faut qu'il assume aussi. Donc, il assume. Alors, la question, pour moi, c'est plutôt aller au-delà de 2025 ou pas. Or, je rappelle qu'on a quand même chassé un Carlos Sainz qui était excellent à sa place. Et ça a été un peu la désolation. Charles Leclerc, lui-même, alors, voulait pas faire offense non plus à ce moment-là à Lewis Hamilton en disant, mais ils se sont regrettés mutuellement. Fred Vasseur aussi a dit, on regrette Carlos Sainz pour tout ce qu'il apporte. Et ce qu'il apportait, ben là aussi, je vais pas vous asséner les chiffres, mais je les ai là. Il était quasiment du niveau de Charles Leclerc. Donc, on a chassé quelqu'un qui avait même pas 30 ans à l'époque, qui les a maintenant, et qui était vraiment, ils se poussaient tous les deux dans un parfait état d'esprit pour faire la place pour un septuple champion du monde. Pour, j'allais dire aujourd'hui, pas seulement un coup de com', même si ça a pesé considérablement. Bon, toute la mise en scène de la visite à Fiorano et tout ça, enfin vous avez vu ça, c'était quand même du grand cinéma, quoi. Et on y va carrément, c'est le mot qui convient. Alors, maintenant, ben il ne délivre pas les résultats, c'est peu de le dire, il est vraiment très en deçà. Que pourrait faire quelqu'un d'autre? Bah, pourquoi pas Carlos Sainz? Bon, il y a un contrat avec Williams quand même, hein, pour le moment. Mais j'imagine que pour remplacer quelqu'un du calibre d'Hamilton, même pour 2026, alors vous me direz, un baquet chez Ferrari, qui va refuser ça? Oui, d'accord. Mais au côté de
Charles Leclerc. C'est ça, Jean-Luc, c'est que lorsque le baquet va être libre, il va y avoir des prétendants quand même.
Ah ben non, mais ça c'est clair. C'est quand même, attends, l'écurie là au moment où je vous parle, c'est la deuxième du championnat.
Mais oui,
d'accord.
Oui.
Ils sont deuxième et on voit bien qu'elle est en train de se redresser. Donc c'est quand même un baquet dans une écurie.
Mais c'est pour ça que c'est une vraie question, un vrai choix que doit faire Ferrari.
Ouais.
Est-ce que tu gardes un Hamilton complètement déprimé qui n'a plus les résultats d'avant, ou est-ce que tu vas chercher
Mais moi je crois que Jérôme a raison. C'est pas
déjà,
Ferrari
si
qui va faire choix.
Je pense
que c'est Hamilton.
Ce que nous dit Jean-Luc, j'ai l'impression quand même que Ferrari, au bout d'un moment, il a un contrat. Bon, certes, il doit le respecter, mais s'il ne fait pas les performances adéquates... Alors,
oui, mais tu ne peux pas l'obliger à rouler s'il n'a plus envie.
Bah, voilà, non, mais tu ne peux pas l'obliger à rouler, mais est-ce que tu peux le virer, tout simplement?
Alors, le virer, non, bah d'abord, je ne sais pas, je connais pas les clauses, là aussi, on est tellement déglutis, j'utilise le mot exprès, sur les clauses du contrat de Verstappen chez Red Bull, que personne connaissait, hein. On a inventé qu'il fallait qu'il soit au moins mieux que quatrième à l'issue.
Ouais,
personne ne le savait. Ouais. Bon, voilà, pour être clair, bon, certains ont pensé qu'ils savaient, bah tant mieux pour eux, moi j'en ai jamais été sûr. Donc là, quelles sont les clauses du contrat de Lewis Hamilton? Est-ce qu'il doit délivrer un certain nombre de pôles, de podiums, de victoires dans la saison? Je n'en sais rien. J'imagine qu'il y a quand même une petite clause de résultat quelque part qui permettrait à l'écurie Ferrari de l'écarter. Mais ça, c'est une sanction, comme je l'ai dit, à la hauteur de l'arrivée. Hein. Et puis, qui ne se prendra pas en cours de saison. Pour être clair, si elle se prenait
décision... En fin de saison.
Non, en fin de saison. Là, c'est possible, oui.
Ouais.
Là, je pense que c'est possible. Est-ce que c'est souhaitable? C'est pas à moi de le dire. Là, honnêtement, ce serait une catastrophe. Alors, je voulais évoquer Schumacher également, si vous me le permettez. Parce que Schumacher a eu également une fin de carrière difficile. Il faut l'évoquer aussi, hein. À un moment, il s'est arrêté. Il avait même quitté la Formule 1. Vous le savez, il est revenu avec l'aventure Mercedes. Ça n'a pas été concluant, pour être clair. Mmh. C'était plus celui qu'il était. Il avait plus de 40 ans. Il roulait convenablement. Bah, comme Hamilton, quand même. On ne va pas leur taper sur la tête plus qu'il ne faut.
Oui, il a son permis.
Un septuple.
Ouais.
Mais oui,
Hamilton,
il tenait.
Sur le périph', il s'en sort, quoi. Mmh.
Oui. Non, il obtenait des résultats décents. Mais là, faut reconnaître que parti 16e, puis c'est l'accumulation, si vous voulez. Parti 16e en Belgique, bon, avec une belle remontée en course, mais je vais oser dire, dans la Ferrari, avec la stratégie qu'ils avaient, bah, Sainz, il faisait au moins ça. Voilà, je vais répondre. Il faisait au moins ce qu'a fait. Et probablement, plus de la moitié du plateau de Formule 1 faisait pareil.
Ouais.
Voilà, pour être clair. Alors, il l'a fait, c'est très très bien, mais il a fait le boulot. Et puis là, bah, 12e. Et puis pour remonter, je peux vous dire qu'en course sur ce tracé-là, alors par parenthèse, je suis en train de regarder en même temps la course de Formule 2, bien sûr, parce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, eh bien la piste était mouillée au départ, ils sont tous partis en slick, mais je peux vous dire que ça a valu, ça a été très spectaculaire. Donc il fait gris sur la Hongrie, donc il y a un facteur qui peut intervenir pour le Grand Prix tout à l'heure, c'est le fait que la piste soit mouillée à un moment ou à un autre, et ça permettrait peut-être
une remontée fantastique.
Une remontée, alors voilà. Moins fantastique que celle de la Belgique, parce qu'on peut moins doubler.
Mais une remontée.
Voilà, mais il pourrait peut-être tirer son épingle du jeu, au moins revenir dans les poules.
Alors écoute, voilà. On va suivre ça, là c'est parce que Jean-Luc il nous a vendu ce Grand Prix, et forcément les déclarations de Lewis Hamilton, bah, ça rend ce Grand Prix passionnant à suivre. On suivra la performance de Lewis Hamilton après ses déclarations assez hallucinantes. On rappelle évidemment Charles Leclerc en pole position devant les deux McLaren, Piastri et Norris. Verstappen ne partira que 8e. Et Hadjar, le premier français, a fait le 10e temps. On en parlera.
Woodsen résistait à Senna pendant tout le Grand Prix en 90. Hein. Donc c'est vous dire.
Bon, en tout cas, ça promet pour tout à l'heure. 15h sur RMC. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup
merci
d'être passé.
Salut Jean-Luc.
Et à très bientôt dans les grandes gueules du sport. Vous restez avec nous. Les GG reviennent avec la contre-attaque des GG. Vous avez encore quelques minutes seulement pour voter pour votre débat préféré. Allez sur le compte X des grandes gueules du sport et votez. Tout peut changer en quelques minutes. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h49, RMC, les grandes gueules du sport. Jérôme Pinot, Ludo Duchesne, Fred Veil ce matin. Dans un instant, on va passer la seconde pour se rendre à Singapour. Dernière journée des mondiaux de natation avec notamment le 400 mètres 4 nage de Léon Marchand. La finale à suivre sur RMC. Un nouveau défi puisqu'il est inquiet après sa série ce matin, vous l'entendrez. Est-ce que le plus dur est à venir pour Léon Marchand? On en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, à cette heure-ci, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC. Les GG contre-attaque.
Les grandes gueules du sport qui vous ont proposé un débat et c'est vous qui avez choisi votre débat préféré. Les votes sont clos. Troisième et dernier, mais sur le podium. Je vais te la faire à chaque fois.
À chaque fois.
Fred Weiss.
Bravo Fred.
Bravo. Deuxième, troisième place.
C'est déjà un honneur que d'être nominé.
C'est pas mal. C'est pas mal pour ton débat voilà, sur l'égalité homme-femme. C'est bien tenté. Deuxième, et ça fait deux fois qu'il perd d'affilée. Là, il faut se ressaisir. Ludovic Duchesne.
Eh ouais, c'est une grosse déception. Je pensais que c'était un sujet qui pouvait vraiment intéresser
les joueurs qui partent en Russie.
Ouais, qui partent en Russie. Non. Alors, il y a dans d'autres sports, ça existe. On l'a vu en basket notamment. Mais là, quand même, il y a des. Le gars est tempérin, tout ça. C'est des joueurs qui ont marqué la Ligue 1.
Ouais.
Je suis très déçu par nos auditeurs.
Ah bon?
Mais ils m'ont déçu là-dessus.
Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, tu
en même temps, aujourd'hui, c'est une Pinot Day. Donc à un moment.
Mais Jérôme, voilà,
Jérôme Pinot, grand vainqueur, bravo, bravo Jérôme, 51%, plus de la moitié des votes quand même. C'est énorme. Hein.
C'est peut-être bien, c'est certainement la première fois depuis.
Et la dernière, rassure-toi.
En même temps, c'est ton débat. Alors tu voulais nous parler justement de ces ligues fermées là qui étaient de plus en plus récurrentes dans le sport ou en tout cas qui pouvaient prendre la place de championnats plus classiques, c'est ça? Et tu voulais avoir l'avis des GG. Sur ça, on t'écoute.
Ouais, en fait, avec l'apparition, on a vu cette semaine le projet Rebel League pour le rugby avec de riches investisseurs qui veulent investir dans le rugby, créer une ligue fermée avec des 16 équipes hommes d'un côté et 8 équipes de femmes de l'autre. On a entendu parler de la Super League dans le football et puis surtout de One Cycling dans le cyclisme avec tous ces projets. Et ce qui me choque vraiment, moi, c'est où sont les passionnés de sport. À aucun moment dans les projets de ces grandes ligues, de ces ligues fermées, on nous parle de projets sportifs, de donner, de rendre, d'attirer les gamins, de classement, de promouvoir le sport par le sport, de mettre en lumière les athlètes. On parle que d'oseille, que de ligues fermées, que comment les investisseurs vont pouvoir mettre en place avec des grandes stars payées à grands coups de millions d'euros, plusieurs centaines de millions pour le rugby, pour le football, et récupérer la manne financière investie dans ce sport. Moi, ce qui me gêne et ce qui me fait énormément peur en ce moment, c'est toutes ces ligues-là qui vont vers un cyclisme et un sport en général que business. One Cycling, pour parler du projet que je connais le mieux, c'est un projet qui veut regrouper les plus grandes épreuves sans qu'ASO soit concernée puisque elle ne veut pas entrer dans ce système-là. Réunir un minimum d'épreuves avec que les grandes équipes, que les grands champions, pour vendre ça à un État, l'Arabie Saoudite, pour pas la citer, et faire de l'oseille entre eux. Quid du côté populaire, quid du côté de la formation chez les jeunes, attirer les jeunes dans ce sport. Comment fait-on et comment voit-on le sport de demain? Si le sport doit devenir cela, je suis très très inquiet pour un grand nombre de sportifs et de jeunes gamins qui vont débuter le sport à la rentrée prochaine. Parce que pour moi, on perd complètement. Alors, on a eu ce débat sur les départs en Arabie Saoudite des joueurs, mais on perd complètement l'essence même de notre sport et les valeurs du sport, de ce qu'on aime, c'est-à-dire former, se dépenser, faire des compétitions, que le meilleur gagne. Voilà, on perd tout ça. Ça m'inquiète énormément. Je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que vous partagez?
Moi, je suis très inquiet.
La crainte.
Oui, ce que Jérôme dit, alors que des ligues fermées, ça existe déjà. Le danger, c'est des ligues parallèles, en fait. Ça a été le cas en foot, ça a été proposé avec la Super League. Le danger, c'est que là, des clubs ont commencé à faire sécession. Donc là, tu détruis même des choses qui marchent. C'est-à-dire que là, tu vas encore plus loin. Alors, l'idée, évidemment, derrière, c'est faire du business. Donc, où Jérôme a raison, c'est que la formation, le public, attirer des jeunes, etc. Là, je pense qu'on en est très, très loin. C'est vraiment faire de l'argent et que de l'argent et mettre en danger même son propre sport. Donc c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Et sur la Super League, oui, ce qui a été gênant, c'est que on a demandé à certains clubs de quitter la Ligue des Champions actuelle, de faire limite sécession. Et ça a failli marcher en plus.
Bien sûr.
Il y a des clubs comme le Real Madrid, comme les clubs italiens, comme certains clubs anglais qui ont reculé.
Ça a obligé la Ligue des Champions d'ailleurs et à l'UEFA à se revisiter un petit peu.
À se revisiter, mais c'est vrai qu'à ce niveau là, c'est tout le danger de ces ligues qui se créent et qui souvent proposent c'est vrai, il faut le dire aussi, un peu n'importe quoi.
Mais les fermées,
moi, je connais bien les ligues fermées. On a une qui fonctionne très bien et c'est culturel aussi. Oui, nous, voilà. Nous, on n'a pas cette culture. Nous, on a la culture de la montée-descente. Donc,
la récompense sportive.
La récompense sportive, ouais. Effectivement. Sauf qu'on se rend compte que c'est difficile d'exister quand on n'a pas cette sécurité de la ligue bien fermée. Donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question, plusieurs personnes s'étaient posé la question par rapport au championnat de France, par exemple, de faire une ligue fermée dans le basket. Et en fait, encore une fois, c'est la culture qui avait pris le pas. Mais il faut quand même se dire qu'on n'a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut être rétrogradé, passer de la première division à la deuxième division, qui amputerait de nombreux sponsors et qui permettrait.
Ça fait peur aux investisseurs.
Et ça fait peur aux investisseurs. Donc, je n'ai pas vraiment de ces sports vision européenne. Mais par exemple, ça nous empêche peut-être d'être concurrentiel au niveau européen, par exemple. Parce que, mis à part un philanthrope absolu, comme ça peut être le cas de Monaco, faut trouver l'argent, faut rassurer les investisseurs. Et je dis pas qu'il faille des ligues fermées, hein, parce que moi aussi, je suis culturellement plutôt opposé. Sauf qu'il faut se poser la question. Et je pense que dire que toutes les ligues fermées sont mauvaises ou dire que toutes les ligues fermées sont bonnes, c'est une hérésie.
Non, mais
il faut s'adapter aux conditions.
Ce qui m'inquiète, Fred, tu vois, c'est plutôt le côté, comme le dit Ludo, ligue parallèle. Là, je te parle dans le cyclisme, le one cycling, c'est 4-5 grands patrons d'équipe qui disent on a 300 millions d'euros versés par l'Arabie Saoudite, on va faire nos courses, on va faire nos droits de télé, mais en parallèle. C'est-à-dire qu'ils sont complètement dans la session avec même l'organisation. Qui régule l'organisme régulateur du vélo, c'est l'UCI. Ils sont en contradiction avec l'UCI, c'est-à-dire qu'ils tournent le dos à tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Ouais. Mais pour moi, si tu veux créer quelque chose, parle-moi de sport et parle-moi de ce que ça va apporter à nos gamins qui vont
faire un bon sport.
Pas que à toi dans une vision à court
terme. C'est la sécurité. Et tu vois, moi, je vous parlais d'autre chose. La NBA qui est en train d'essayer de se rapprocher de l'Europe et de faire une ligue fermée en Europe, en concurrence avec l'Euroleague, qui est une ligue semi-fermée, hein, parce que certains diront que c'est une ligue ouverte, c'est une ligue semi-fermée aussi. Et ben d'un côté, moi je suis plutôt rassuré de me dire que les gens
qui fait du mal au basket quand même.
Mais je sais pas.
L'Euroleague, tu te souviens, il y a aussi des compétitions parallèles.
Évidemment, la scission entre l'Euroleague et la FIBA, ça a été très compliqué, évidemment. Mais je me dis que quelqu'un comme la NBA qui arrive en Europe, qui va avoir cette capacité à promouvoir le basket, qui va avoir cette puissance économique pour faire plein de choses, cette puissance médiatique qui nous permettra peut-être enfin d'être visible en France. Je me pose la question.
Là, tu peux ne pas oublier.
Je n'ai pas de réponse.
Tu peux oublier.
Regarde, à Paris, on a été capable de créer un club de basket qui fait le plein chaque fois. Alors que c'est un club créé de toutes pièces. Oui, donc pourquoi pas le créer aussi.
Comme tu l'as dit, Fred, c'est culturel. Aux États-Unis, on parle de franchise. Donc et puis ça a été le cas dès le début. Ça serait compliqué aujourd'hui en France ou en Europe de monter comme ça des championnats en disant alors d'accord. Alors toi t'y es.
Bah, Monaco,
par exemple, Lyon t'y es pas.
La Ligue 1, on s'en rapproche.
Saint-Etienne, t'y es pas. Nantes, t'y es pas. C'est très, ouais, mais c'est très compliqué.
Toujours.
C'est compliqué, mais tu peux pas non plus être rétrograde tout le temps et dire un non absolu. Je pense qu'il faut étudier chaque situation et il n'y a pas de réponse à ce que dit Jérôme. Pour moi, il n'y a pas de réponse. Ça dépend des cas de figure, en fait.
Aussi, tu montes, tu descends.
C'est aussi la preuve que ce genre de choses divise. C'est-à-dire qu'on est tous là à se dire, mais est-ce que c'est du bien ou du mauvais? En tout cas, ça nous divise et ça peut nous amener vers une certaine dérive. Et moi, c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que tu parles de franchise. Quelque part, le cyclisme, c'est ce qu'on est le mieux. Désolé de revenir à chaque fois à ce sport, mais c'est en train d'être le cas. UAE, c'est une franchise. Visma, c'est quasiment une franchise. Bahreïn, c'est une franchise. Mais est-ce qu'ils peuvent avoir un spectacle équivalent à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'enthousiasmer? Est-ce qu'on peut amener les gamins vers ce sport si on ferme tout et qu'on court quand... Non, on a besoin d'Intermarché Wanty. On a besoin de Total Energy, de Bernardo.
Voilà.
On a besoin de ça. Pour moi, si on n'a pas ça, l'essence même du sport, du grand contre le petit, de l'exploit sportif disparaît. Okay. Et là, en fait, c'est plus.
On a besoin d'Arkea. On l'a vu. On l'a vu lors du Tour de France.
Excellent débat.
On a besoin de Vauclin. On a besoin de
Jérôme. Bravo Jérôme. On m'annonce dans l'oreillette aussi que c'était viré. C'est Jérôme qui prend l'émission à partir de la semaine prochaine.
Oui, il a déjà pris les commandes. Là, j'ai l'impression. En même temps, c'est le principe de la série. séquence. Je vais reprendre les rênes, là. C'est bon. Bravo, Jérôme.
Vas-y, vas-y.
Excellent débat, magnifique. Tu reviendras, j'espère, dans les GG, hein, pour remonter le niveau, comme tu le fais.
Comme il a dit Fred, je n'interviens pas parce que ça ne sert à rien de donner des banalités.
Voilà, c'est ça.
Oui. Mais pour une fois, ce n'est pas une banalité, c'est pour ça que tu as gagné, Jérôme. Jérôme,
tu as
appliqué ce que je t'ai dit.
On arrête, les amis, on revient dans un instant. Les grandes gueules du sport continuent. On va retrouver Julia Richard, Sophie Camoun à Singapour pour les mondiaux de natation. Et on parle de Léon Marchand, attendu tout à l'heure en finale 400 mètres, 4 nages. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.